Vous écoutez France Inter, il est 13h. Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. Des dizaines de milliers de manifestants à Téhéran après la frappe américaine de la nuit dernière à Bagdad, qui a tué notamment le général Soleimani, patron des opérations extérieures de l'Iran. Les Iraniens crient vengeance. L'ayatollah Khamenei appelle au djihad de la résistance. Le président irakien, dont le pays est devenu un champ de bataille par procuration, appelle à la retenue. Washington, qui dit avoir frappé en représailles aux attaques de ces derniers jours contre les intérêts américains en Irak, évacue ses ressortissants. De nombreuses dans le monde dénonce une escalade dangereuse. On y revient dans un instant avec nos correspondants à Washington et Téhéran, avec également notre invité François Nicoulot, ancien ambassadeur de France à Téhéran. L'affaire Matzneff et le parquet de Paris qui ouvre une enquête préliminaire pour viol sur mineur. Après la lettre de l'écrivain à l'Express qui parlait d'un exceptionnel amour, les premiers mots ce matin de Vanessa Springora, c'était sur France Culture.
Ma mère avait employé le mot pédophile à son égard, mais je ne l'ai pas prise au sérieux. Ce mot me paraissait ne pas correspondre à ce que j'étais en train de vivre, puisque j'étais dans cette période de l'adolescence où on a tendance à se croire déjà adulte.
Vanessa Springora qui raconte dans son livre Le Consentement sa relation toxique avec l'écrivain quand elle avait 14 ans. Nous l'écouterons. Dans ce journal également l'affaire Ghosn qui n'est pas une affaire française pour le gouvernement. La seule chose qui m'importe, explique le ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'est l'avenir de Renault. Des incendies mortels, toujours hors de contrôle en Australie, mortels également pour les koalas, Célia Cliré.
Oui, près d'un tiers des koalas auraient déjà péri dans les flammes en Nouvelle-Galles du Sud, selon la ministre de l'Environnement. En tout, près de 500 millions d'animaux ont été touchés par ces incendies.
On y revient en détail dans un instant avec vous. Et puis le Dakar nouveau qui est arrivé après l'Amérique du Sud. Le voilà maintenant en Arabie, aux grandes dames des ONG qui fustigent ce choix des organisateurs. Enfin le Louvre qui voit ses fréquentations baisser en 2019, qui reste malgré tout une grande année. Plus de 9,5 millions de visiteurs. À 13h30 bien sûr, la Terre au carré avec vous Élodie Font. Bonjour.
Bonjour.
De quoi nous parlez-vous ?
De neige aujourd'hui, de neige naturelle et artificielle. Y aura-t-il encore en France de la neige naturelle en 2050? On en parlera avec deux spécialistes de la montagne, Emmanuel Georges et Samuel Morin. Le standard est ouvert au 01 45 24 7000 pour toutes vos questions et vos réactions.
La Terre au carré à 13h30.
France Inter.
C'est peut-être la plus importante opération de décapitation, entre guillemets, menée par les États-Unis, selon certains spécialistes du Moyen-Orient. La mort la nuit dernière à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani, c'est presque plus énorme que l'élimination d'Abou Bakr al-Baghdadi ou d'Oussama Ben Laden. D'autant qu'avec Soleimani, l'émissaire de la République islamique en Irak, les Américains ont également tué le numéro 2 du Hashd al-Shaabi, paramilitaire pro-iranien intégré aux forces irakiennes. On va y revenir. Les appels à la vengeance, évidemment, se sont multipliés ce matin du côté de l'Iran et de leur soutien. Siavosh Ghazi nous appelle de Téhéran.
Le général Qassem Soleimani était très apprécié par de nombreux Iraniens, notamment pour l'action qu'il a menée en Syrie et en Irak pour lutter contre des groupes Al-Qaïda et Daesh. C'était une personnalité très populaire. Son compte Instagram était très suivi et même des Iraniens qui sont considérés comme hostiles au pouvoir ont affiché la couleur noire sur leur compte Instagram en signe de deuil. Le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a décrété 3 jours de deuil national. Il a affirmé que la vengeance de l'Iran contre les Américains sera terrible. D'autres responsables iraniens, notamment le président Hassan Rouhani, ont également crié à la vengeance en dénonçant ce qu'ils ont qualifié d'actes terroristes et criminels des États-Unis. Donc c'est un ton unanime qu'on entend aujourd'hui, puisque même l'ancien président réformateur Mohammad Khatami a présenté ses condoléances et a dénoncé ce qu'il a appelé le crime commis par les Américains.
Siavosh Ghazi, correspondant de Radio France Internationale pour France Inter à Téhéran. C'est une motivation redoublée à résister, qu'a donc souligné le guide suprême iranien Ali Khamenei. Résister, résistance, étant les termes qui reviennent le plus souvent dans les réactions venues d'Iran, où le général Soleimani était une figure importante, dont les portraits ornent d'ailleurs les rues de Téhéran. Claude Guibal, c'était un fidèle d'entre les fidèles de l'ayatollah Khamenei.
Et même au-delà de ça, Qassem Soleimani, c'était vraiment l'un des hommes les plus puissants, les plus charismatiques charismatique de tout le Proche-Orient. Militaire, chef de la force Al-Quds, c'est l'unité d'élite des Pasdaran, qui est l'aile armée du régime iranien. C'était vraiment un maître espion, un stratège militaire et politique hors pair, et puis surtout un homme de terrain, une sorte de moine soldat devenu une icône comparée à un Che Guevara oriental. Sur le terrain, les soldats se pressaient à ses côtés pour faire des selfies, mais la seule interview qu'il n'ait jamais donnée, c'était en octobre dernier à la télévision iranienne, en costume noir. Il racontait ainsi la guerre de 2006 au Liban.
Que tout un courant qui est très sacré, vous, et qui a d'abord Hezbollah.
Qassem Soleimani, c'était aussi le grand architecte de l'influence iranienne dans toute la région. Pendant la guerre Iran-Irak, il s'était fait en fait remarquer pour son courage, pour sa capacité à passer derrière les lignes ennemies. Et c'est sur ce prestige qu'il a réussi à bâtir des réseaux dans chacun des pays de l'arc chiite, l'Irak, l'Iran, la Syrie, le Liban. Tout ça en finançant et en formant partout des milices locales chiites qui permettent aujourd'hui à l'Iran de bénéficier là de forces par procuration qui sont totalement acquise à ses intérêts. En Syrie, c'est lui qui, dans l'ombre de Bachar al-Assad, a articulé, a construit toute la répression de la révolution. Redoutable tacticien, c'est aussi lui qui a mis en œuvre, en fait, la montée des djihadistes pour mieux détruire par la suite toute la rébellion. Et on comprend pourquoi. C'est aujourd'hui une perte irréparable pour le régime iranien.
Alors, partout dans le monde, les réactions se montrent plutôt critiques ou inquiètes. En tout cas, l'ayatollah Sistani, figure irakienne de l'islam chiite, dénonce une perfidie américaine, une violation de la souveraineté nationale, tout en appelant à la retenue et à la sagesse. Damas dénonce une lâche agression. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en voyage en Grèce, rentre dardard au pays. Une station de ski du Golan a d'ailleurs été fermée par précaution. Aux États-Unis, les démocrates, par la voix de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, disent regretter une escalade dangereuse dans la violence. Alors même si des intérêts américains ont été pris pour cible ces dernières semaines, même si l'ambassade américaine à Bagdad a été attaquée par des manifestants il y a trois jours. Malgré ça, Grégory Phillips, vous êtes le correspondant de France Inter à Washington. Malgré ça, comment expliquer cette décision radicale de Donald Trump ?
Alors écoutez, en vérité, on a vu un enchaînement assez rapide. Regardez, 27 décembre, attaque à la roquette contre une base militaire irakienne près de Kirkuk dans le nord du pays. Un sous-traitant américain est tué, plusieurs militaires blessés. Pas de revendication, mais Washington attribue cette frappe à une milice pro-iranienne. 29 décembre, deux jours plus tard, l'aviation américaine bombarde les bases du Hezbollah irakien dans l'ouest du pays. 25 morts. Le patron du Pentagone précise que l'opération a été menée pour empêcher les brigades du Hezbollah de mener de futures actions. Et puis 31 décembre, vous l'évoquiez, ces scènes qu'on a vues à l'ambassade des États-Unis à Bagdad, des milliers de miliciens pro-iraniens qui tentent de mettre à sac la représentation diplomatique américaine, et Trump menace alors de faire payer le prix fort à Téhéran. Et dans le communiqué publié par le Pentagone tard hier soir, eh bien, les États-Unis pointent la responsabilité du général Soleimani dans cette attaque du 27 décembre et dans l'assaut contre l'ambassade. Surtout, les Américains affirment que le responsable iranien s'apprêtait à lancer d'autres opérations, d'autres attaques contre des personnels militaires et des diplomates américains. Et donc, sur ordre du président Trump, eh bien, ce raid, cette attaque de drone contre le général Soleimani a été lancée tard hier soir. Faut pas oublier non plus que Soleimani était depuis 20 ans le patron de cette force Al-Quds, en gros le responsable des opérations extérieures de cette unité d'élite des gardiens de la Révolution. Et donc, qu'à ce titre, il était, aux yeux de Washington, responsable de la mort de plusieurs centaines de soldats américains ces dernières années sur le sol irakien.
Grégory Phillips à Washington, les États-Unis qui appellent leurs ressortissants à quitter l'Irak immédiatement. L'Irak qui se retrouve au centre d'un conflit qui n'est pas le sien, tiraillé entre les États-Unis et l'Iran, le pays qui n'est pas sorti de 16 ans de guerre depuis l'intervention américaine de 2003, va encore payer les pots cassés, Christian Chéneau.
Oui, l'Irak fait de plus en plus victime, est une victime collatérale de sa double alliance avec Washington et Téhéran, qui devient intenable. Le Premier ministre Abdelmadel Mahdi, qui a condamné la liquidation du général Soleimani, considère que cette opération va allumer une guerre destructrice dans son pays. Déjà, l'épisode de l'attaque de l'ambassade américaine avait placé Bagdad dans une posture très inconfortable. Le Premier ministre irakien s'était fait sermonner au téléphone par Donald Trump, mais après le raid de cette nuit, l'Iran, via ses alliés locaux, pourrait rendre impossible la vie des 5200 soldats américains déployés sur le sol irakien. Et c'est peu dire que les puissantes milices pro-iraniennes qui regroupent des dizaines de milliers de combattants sont déjà chauffées à blanc contre le grand Satan américain, selon leur rhétorique. Bref, tous les éléments d'un scénario redouté par les autorités de Bagdad sont en train de se mettre en place, c'est-à-dire celui d'un Irak devenant, malgré lui, le théâtre du règlement de compte sanglant entre Iraniens et Américains.
Invité de ce journal, François Nicoulot, ancien ambassadeur de France en Iran de 2001 à 2005. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'Irak est devenu le terrain de bataille par procuration entre États-Unis et Iran, qui voulait éviter sans doute la confrontation directe. Est-ce que cette opération décidée par Donald Trump cette nuit change la donne ?
Oui, elle change la donne. Et manifestement, elle va la changer. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça fait plusieurs années que les Américains auraient pu tuer Soleimani, mais ils ont hésité parce qu'ils se rendaient compte, enfin ils analysaient la situation, ils se rendaient compte que cela pourrait entraîner des réactions en chaîne incontrôlables. Puis finalement, là, ils ont décidé de sauter le pas en infligeant, j'allais dire, une double humiliation aux Iraniens et aux Irakiens. Aux Iraniens, en traitant un personnage qui était comme une figure nationale, hein, qui était respecté, c'était le militaire idéal, hein, qui n'avait aucune ambition politique, qui était un grand militaire et aucune ambition politique. Et il a été abattu comme un vulgaire terroriste. Et ça, c'est quand même quelque chose que les Iraniens auront du mal à avaler. Et puis, les Irakiens, Christian Chesnault l'a dit, sont humiliés de voir leur territoire utilisé comme terrain de jeu pour l'affrontement entre États-Unis et Iran.
Alors est-ce que, comme certains l'ont dit ce matin, est-ce que c'est une déclaration de guerre de Donald Trump à l'Iran ?
Et on va voir, parce que Trump n'aime pas les guerres. Hein. Il n'aime pas les guerres, ce sont des guerres sales dans des pays lointains qui amènent qui conduisent à rapatrier aux États-Unis des corps de GI tués. Ça, il n'aime pas ça. Mais en même temps, à l'approche de l'élection présidentielle, il ne peut pas apparaître comme indécis et mou. Donc il a sauté ce pas, sans doute à sa façon, c'est-à-dire sans réfléchir beaucoup, de façon intuitive. Et maintenant, on va voir en effet où va s'arrêter l'escalade, si elle s'arrête.
Sachant que l'Iran peut frapper n'importe où, et que c'est l'Occident dans son ensemble qui redevient l'ennemi.
En effet. Alors pour l'Iran, le choix est quand même compliqué, parce que s'il réplique trop fort, il risque de déclencher une guerre générale quand même. Et dans une guerre générale, il va de soi que le déséquilibre des forces entre l'Iran et les États-Unis fait que l'Iran sera vaincu, hein, même s'il inflige des pertes significatives aux Américains. Et donc, on va voir comment il va agir, s'il va agir de façon, j'allais dire, clandestine, sans revendiquer ces attaques, comme on l'a vu en Arabie Saoudite, dans le Golfe Persique, des attaques contre des pétroliers ou contre des installations pétrolières, ou s'il déclenche ce qui pourrait entraîner une guerre générale. Et ça, bon, le Conseil de sécurité suprême s'est réuni à Téhéran. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été présidé personnellement par le guide de la révolution. Le guide de la révolution, Ali Khamenei, qui n'assiste pas en général à ces conseils, qui n'y assiste que dans les grandes circonstances. C'est donc là qu'est en train de se forger la réplique iranienne.
Alors en marge de ce conflit latent, un mot des chercheurs français retenus en Iran, dont la situation du coup ne risque pas de s'arranger.
Non, en effet, parce que tout va être gelé maintenant. On voit très bien que toute possibilité, tout travail qui était fait en vue de trouver un arrangement entre les États-Unis et l'Iran sur la question nucléaire, les efforts d'Emmanuel Macron pour essayer de rapprocher un petit peu les parties, tout ça part à volo, hein, ça c'est tout à fait clair. Et l'Iran va se durcir, va se crisper, et en effet ça joue de façon tout à fait défavorable pour les otages étrangers, hein, ou binationaux qu'il détient en ce moment, qu'il a pour s'en servir le moment venu comme monnaie d'échange. Mais comme il n'y a pas d'échange qui peut arriver dans l'immédiat, il risque d'être tenu encore assez longtemps.
François Nicoulot, ancien ambassadeur de France en Iran, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation dans ce journal. À noter que les principales places boursières mondiales ont reculé ce matin et que les cours du pétrole ont fortement bondi de plus 3,5%, la preuve que les marchés ne sont pas rassurés.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamps.
Dans l'affaire Matzneff, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour viol sur mineur. À la lumière de ce que raconte l'éditrice Vanessa Springora dans son livre Le Consentement qui vient de paraître, la justice a donc décidé en quelque sorte de prendre date. Jean-Philippe Degnaud, vous êtes au tribunal. Les faits sont prescrits, mais on ne sait pas après tout ce que peut révéler ou susciter comme réaction une enquête.
Oui, et ce matin, la justice applique un petit peu la jurisprudence Adèle Haenel. Mi-novembre, le parquet de Paris avait ouvert une même enquête de sa propre initiative sur la base des révélations de la comédienne dans une enquête de Mediapart avant qu'elle ne se décide à porter plainte. Cette fois, c'est donc le livre de Vanessa Springora que les magistrats de la section des mineurs du parquet de Paris ont lu hier, qui les conduit donc ce matin à lancer cette enquête. Alors, elle va permettre d'entendre Vanessa Springora, de convoquer Gabriel Matzneff. Elle permettra également de peut-être susciter une libération de la parole d'éventuelles autres victimes de l'écrivain et surtout en confiant les investigations à l'Office central de répression des violences faites aux personnes. Le parquet de Paris souhaite pouvoir mener des recherches à l'étranger, notamment à Manille où Gabriel Matzneff a effectué du tourisme sexuel qu'il a lui-même plusieurs fois évoqué publiquement. Donc, oui, cette enquête démarre avec un fort risque de se terminer par un classement sans suite pour cause de prescription, mais la justice garde un espoir de pouvoir établir des faits qui pourraient mener Gabriel Matzneff un jour devant un tribunal ou une cour d'assises.
Jean-Philippe Degnaud, dans son livre Le Consentement qui vient donc de paraître, Vanessa Springora, aujourd'hui directrice des éditions Julliard, décrit la relation toxique qu'elle avait entretenue à l'époque, elle avait 14 ans, avec l'écrivain quinquagénaire, qui d'ailleurs lui ne s'est jamais caché de son penchant pour les mineurs. Les faits sont prescrits, on l'a dit, mais le plus important pour la jeune fille, qui fut sa victime, comme elle le dit elle-même, c'est justement de pouvoir le dire, exprimer son ressenti, ses blessures, ce qu'elle a fait ce matin pour la première fois de vive voix au micro de France Culture avec Guillaume Erner.
C'était important pour moi effectivement de faire rentrer dans le champ littéraire la voix d'une jeune fille qui avait été victime, parce que c'est une voix qu'on n'entend jamais effectivement en littérature. Pour qu'une histoire de ce type puisse se produire, il faut un certain nombre d'éléments, et notamment il y avait effectivement chez moi un manque paternel assez criant, mais il y avait aussi une grande solitude. J'avais une mère qui était très prise par son travail, qui m'élevait seule, qui m'a élevée aussi dans ce milieu littéraire. Et en l'occurrence, là, il s'agissait de quelqu'un qui avait une notoriété très importante dans les années 80, qui passait dans beaucoup d'émissions littéraires, qui avait son portrait dans les librairies que je fréquentais, enfin... Un adulte qui déclare son amour et qui est par ailleurs un artiste et, comme le disent les intellectuels de l'époque, un grand écrivain. Oui, c'était impensable pour moi qu'il puisse me faire du mal. D'ailleurs, c'est une fiction à laquelle beaucoup de gens ont cru autour de moi. Il a vraiment essayé de faire passer cette histoire pour une histoire d'amour, comme il continue à le faire aujourd'hui. Ma mère avait employé le mot pédophile à son égard quand je lui ai annoncé que cette histoire avait commencé. Mais je ne l'ai pas prise au sérieux parce que j'étais une adolescente un peu rebelle à ce moment-là et que ce mot me paraissait ne pas correspondre à ce que j'étais en train de vivre puisque j'étais dans cette période de l'adolescence où on a tendance à se croire déjà adulte. Ce serait faux de dire qu'il n'y a eu aucune alerte. En revanche, il n'y a eu aucune tentative finalement pour mettre fin à cette histoire. Tout d'un coup, je me suis aperçue que ces très jeunes enfants de 11-12 ans dont il parle dans son journal, qu'il va payer à Manille pour avoir des relations sexuelles avec eux, en essayant de faire croire là aussi encore que ce sont des histoires d'amour ou d'amitié, ou même qu'il leur rend service en leur glissant un billet de banque dans la poche, comme il l'écrit. Je me suis sentie tout à fait... solidaire d'une certaine manière et j'ai compris la manipulation dans laquelle j'étais tombée. J'étais face à quelqu'un qui était un prédateur. Pas comme il le racontait, un amoureux des enfants, mais un chasseur.
Voilà Vanessa Springora qui parlait donc de sa relation avec Gabriel Matzneff, lequel a répondu à son livre dans une lettre à l'Express. « Je ne mérite pas l'affreux portrait que tu publies de moi », écrit Matzneff, en évoquant un exceptionnel amour et d'adorables souvenirs. En bref, une fusillade à la mairie de Dreux, en Eure-et-Loire. Ce matin, le directeur général des services a été blessé par balle. Son agresseur, armé d'un fusil de chasse, a retourné l'arme contre lui. Une affaire d'ordre privé, selon le procureur. Dans l'affaire Ghosn, il a organisé tout seul son départ au Liban. C'est ce qu'affirme l'ex-patron de Renault-Nissan dans un communiqué pour mieux protéger sa famille. Une vidéosurveillance révèle qu'au moment de quitter sa résidence tokyoïte, il était seul. Ce matin, c'est de Turquie qu'arrivent de nouvelles informations. La compagnie aérienne privée dont Carlos Ghosn a utilisé les jets annonce avoir déposé plainte pour usage illégal de ses services de location à Nandloer en Turquie.
D'Osaka à Istanbul, puis d'Istanbul à Beyrouth, Carlos Ghosn a donc voyagé successivement et clandestinement dans deux appareils opérés par une compagnie privée turque. La compagnie aérienne en question, MNG Jet, s'estime victime dans cette affaire. Selon elle, les deux jets privés ont été loués en décembre à deux clients. L'un des appareils pour un vol Dubaï-Osaka, puis Osaka-Istanbul, et l'autre pour un vol Istanbul-Beyrouth. La compagnie dit ne pas avoir été notifiée qu'il existait un lien entre ces vols, et surtout que Carlos Ghosn s'y trouverait. Les autorités turques elles-mêmes n'ont jamais été informées de l'entrée de l'homme d'affaires sur leur territoire, puis de son départ pour Beyrouth. MNG Jet rejette la faute sur l'un de ses employés arrêté par la police turque. Elle l'accuse d'avoir agi de sa propre initiative et d'avoir falsifié des documents. Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir atterri à l'aéroport Atatürk d'Istanbul tôt le matin du 30 décembre. Son avion en provenance d'Osaka s'est rangé dans un hangar. Peu de temps après, un autre jet privé a quitté le même hangar direction le Liban. Les enquêteurs ont notamment mis la main sur l'enregistrement des échanges entre le pilote du second appareil et la tour de contrôle qui confirme la destination, Beyrouth, où Carlos Ghosn se trouve aujourd'hui. Un endroit Istanbul, RFI pour France Inter.
L'affaire Ghosn n'est pas une affaire française, a dit ce matin la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin. Et c'est ce que dit aussi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui ne s'était pas encore exprimé sur cette grande évasion. Il a fait part ce matin de son commentaire au micro de Kevin Baudreau.
C'est une affaire de justice et j'ai aucun commentaire particulier à faire sur une affaire de justice. Je suis ministre de l'économie. Moi, ce qui m'importe, c'est l'avenir de Renault. Et c'est de faire en sorte que Renault, qui est une magnifique entreprise française, se porte bien, qu'il y ait une stratégie industrielle pour l'alliance Renault-Nissan. Le président de Renault-Nissan, Jean-Dominique Sénard, s'y emploie. Il s'y emploie avec beaucoup de qualité. C'est ça qui permettra à Renault-Nissan de réussir dans ces transformations technologiques considérables qui affectent aujourd'hui le secteur automobile. Et c'est ce qui m'importe comme ministre de l'économie et des finances. L'avenir de Renault, l'avenir des salariés de Renault, l'avenir des sites industriels de Renault en France, tout le reste, c'est une affaire de justice.
Bruno Le Maire qui rendait visite aux commerçants du quartier Montorgueil à Paris, inquiet pour leur chiffre d'affaires en période de grève. Pour le ministre d'ailleurs, il faut sortir de cette logique de grève perpétuelle qui n'est pas un avenir pour la France, dit-il. Ce conflit des retraites, pendant ce temps qui reste au point mort, en attendant la reprise des négociations, ce sera mardi. Le Premier ministre a réuni ce matin les ministres concernés, à charge pour eux de trouver, comme Emmanuel Macron le leur a demandé, un compromis rapide. La grève est entrée ce vendredi dans son 30e jour. Le trafic reste perturbé avec 2 TGV sur 3, un peu mieux qu'hier, 1 TER sur 2, 3 Transiliens sur 10 en région parisienne où 15 lignes de métro sur 16 sont ouvertes aux heures de pointe seulement. En Australie, pitié pour les koalas. Les incendies qui continuent à ravager le sud-est du pays, la région de Sydney, ont fait déjà de nombreuses victimes. On l'a dit, des milliers d'habitants ont été évacués. Mais c'est près d'un tiers de la population des koalas de cette région de Nouvelle-Galles du Sud qui, à ce jour, aurait péri dans les flammes, Célia Kiré.
Oui, la ministre de l'Environnement australienne l'a précisé sur la radio ABC. 8000 koalas ont déjà été tués en Nouvelle-Galles du Sud. Ce sont des forêts primaires riches en biodiversité qui ont brûlé depuis le mois de septembre, et selon des chercheurs de l'université de Sydney, près de 500 millions d'animaux sont morts dans ces incendies. Les koalas en sont les principales victimes car ils vivent dans les eucalyptus. C'est leur habitat qui est détruit et ils n'ont plus de quoi se nourrir. La population des koalas a déjà diminué de moitié entre 1990 et 2010 à cause de la déforestation. Le gouvernement australien a d'ailleurs débloqué une enveloppe de près de 4 millions d'euros, 6 millions de dollars pour protéger ces marsupiaux. Mais il y a également des oiseaux, des kangourous et des reptiles qui ont été tués. Toujours selon la ministre de l'Environnement, d'autres espèces comme le perroquet terrestre de l'ouest de l'Australie et le dunard de l'île Kangourou sont en danger. Le long de la côte est du pays, ce sont les forêts humides les plus anciennes du monde qui ont été atteintes. Et là, ce sont des êtres de 3000 ans qui ont brûlé. Les ONG dénoncent un désastre écologique majeur. Il faudra en effet des décennies pour retrouver une vie sauvage aussi riche en Australie.
Célia Kiré. Après après l'Afrique et l'Amérique du Sud, direction l'Arabie cette année pour l'ex-rallye Paris-Dakar, qui ne part plus de Paris depuis longtemps et n'arrive plus à Dakar. Les 557 concurrents de cette édition 2020 sont arrivés à Jeddah, d'où ils prendront le départ dimanche, au grand dam des associations de défense des droits de l'homme et de la femme, dans l'un des régimes les plus durs et rétrogrades de la planète, Valérie Crova.
L'Arabie Saoudite, ses dunes, ses pistes de sable au bord de la mer Rouge, c'est le côté pile. Côté face, le royaume ultra-conservateur est l'un des pays où l'on exécute le plus, 180 personnes en 2019. Sous le feu des critiques, les organisateurs de la course misent sur l'ouverture entreprise depuis peu par les autorités saoudiennes, comme le droit accordé aux femmes de conduire. David Castera, le patron du Dakar, interrogé lors de la présentation du parcours.
On sent bien que l'ouverture, elle est là. Ils essaient de développer par le tourisme aussi historique, puisqu'on va avoir une espèce de Petra comme en Jordanie. Donc je crois que l'ouverture, elle est là et qu'elle commence aujourd'hui avec le sport.
Les défenseurs des droits de l'homme espèrent que les 1900 journalistes accrédités ne verseront pas dans la complaisance à l'égard de Riyad. Car derrière des paysages à couper le souffle, il y a une autre réalité que décrit Antoine Madelin, responsable du plaidoyer à la Fédération internationale des droits de l'homme.
Celles qui ont milité pour revendiquer le droit de conduire, à l'instar de Loujane Al-Hatoul ou de Samar Badawi, ont été emprisonnées pour avoir demandé des réformes.
Dans un petit guide à l'usage des concurrents, l'organisateur du Dakar rappelle quelques règles à respecter dans un pays régi par la charia, comme l'interdiction pour les couples de se tenir par la main.
Et en attendant, ce sont les 5 prochaines éditions qui se disputeront dans le royaume saoudien. Allez, 9 600 000 visiteurs pour le Louvre en 2019. Ni la crise des gilets jaunes ni les grèves n'ont eu de conséquences sur la fréquentation du plus grand musée du monde, bien qu'elle ait un peu baissé. Il y a des explications à cela, Isabelle Pasquier, mais ça reste une très grande année.
Oui, une année tout à fait exceptionnelle, malgré donc surtout les travaux de rénovation de la salle des États, qui a impliqué quand même une limitation du nombre des visiteurs cet été, vous l'avez dit malgré la grève, mais avec Léonard de Vinci. Alors le Louvre reste, vous l'avez dit aussi, de très 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 loin, le musée le plus fréquenté du monde, avec 3/4 de visiteurs étrangers, en premier lieu des Américains, des Asiatiques, et puis exceptionnel également, 40% des visiteurs y entrent gratuitement, ce qui explique en partie qu'au Louvre, pourtant un musée d'art ancien, 50% des visiteurs ont moins de 30 ans. Et le clip tourné par Beyoncé et Jay-Z symbolise la volonté du Louvre d'être un musée pop populaire, comme le réaffirme Jean-Luc Martinez, le président du Louvre, au sourire moins énigmatique que celui de la Joconde.
Nous avons cherché à faire de ce musée un musée populaire. Le fait que la dernière étape du Tour de France soit passée au Louvre cet été, le fait qu'avec JR ou avec Kader Hatoun ou avec Cinéma Paradiso cet été dans la Cour Carrée, nous multiplions les opérations gratuites pour que le visiteur se sente accueilli au musée. Et puis aussi toute la culture populaire, hein, vous parlez du clip de Beyoncé, bien entendu, mais il s'agit de donner une autre image d'un musée d'art ancien et d'ouvrir ce musée à la culture contemporaine, ce qui explique en effet sa forte attractivité parmi les jeunes.
En 2020, notamment, le Louvre va proposer une grande expo sur les pharaons noirs de Nubie et il va continuer de prospecter du côté du Brésil et de la Chine pour son rayonnement international.
Alors en attendant, c'est l'exposition consacrée à Léonard de Vinci et qui se poursuit. Elle affiche complet d'ailleurs depuis plusieurs semaines. La bonne nouvelle, c'est que le musée va remettre en vente 20 000 billets pour 6 nocturnes à compter du 3 février.
Ultime chance pour y aller.
Voilà, merci Isabelle Pasquier. Le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Jean-Pierre Hameau.
Cet après-midi, nous allons retrouver notre perturbation avec des pluies passagères sur une grande partie du pays. Seuls les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Languedoc-Roussillon, les régions Rhône-Alpes et PACA profiteront du soleil, certes un peu pâleau. En revanche, l'ensoleillement sera généreux au-dessus du massif alpin. Des éclaircies sont attendues, mais en toute fin de journée vers le Finistère et la pointe du Cotentin. La tramontane va reprendre du service, elle se renforcera la nuit prochaine avec des rafales voisines de 70 km/h. Côté température, les maximales évolueront seront entre 6 et 9 degrés du nord-est au centre-est, comptez 10 à 15 dans les autres régions. Et puis demain matin, notre perturbation faiblement pluvieuse va s'étirer de l'Aquitaine au Jura en passant par le Massif central. Le soleil va briller généreusement autour de la Méditerranée, mais aussi au-dessus des massifs pyrénéens et alpins. Vous apprécierez le retour de belles éclaircies de la Bretagne aux Charentes, de la région centre à la Normandie, de l'Île-de-France au Nord-Pas-de-Calais. Et dans les autres régions, vous resterez sous les nuages.